deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Du 1er décembre 2021 au 14 février 2022, Monsieur Pascal Blanchard, historien, a été le commissaire d'une exposition « Portrait de France » sur les émigrés venus de différents pays et intégrés comme nos frères. Cette exposition a été présentée cet hiver 2024 aux anciens ateliers du Bijon, devenu le siège de l'Université permanente de Nantes. Les textes que vous allez écouter sont inspirés des vies de ces hommes et de ces femmes anonymes, parfois devenus célèbres.
De nos héros méconnus. Au début du XXe siècle, on appelait les habitants des colonies des indigènes et les Français de métropole qui rejoignaient les colonies des colons. Le statut des indigènes n'avait rien à voir avec celui des colons. En Martinique, ils étaient des sujets français, quand les colons étaient citoyens français. Il s'ensuivait tout un tas de discriminations, de contraintes et d'impôts qui n'avaient que pour but de faciliter la vie des métropolitains. Beaucoup de Martiniquais n'avaient qu'une ambition, se faire reconnaître comme citoyens français. Par quels moyens ? S'engager dans l'armée, servir la France et se montrer bons soldats. C'était évidemment sous-estimer la perversité de l'administration coloniale, mais on ne peut s'en apercevoir qu'au retour, si l'on en revient. C'est la mésaventure qui arriva à notre héros méconnu, Valentin. Valentin est né sur la côte ouest de la Martinique, à Ducos, le 14 février 1898. Il a 7 sœurs et un frère. Dès qu'il en a la force, c'est-à-dire assez jeune, car il faut nourrir la famille, il est employé dans une usine sucrière. À 19 ans, il incorpore l'armée. Après 11 mois de formation, le 25 juin 1918, il rejoint la France à bord du bateau Haïti. Il est envoyé aussitôt dans les Dardanelles, où il échappe de justesse à la mort. Tout son régiment est décimé. Il participe au combat jusqu'en novembre 1918. Il ne donne aucune nouvelle de lui à sa famille jusqu'à son retour en Martinique par le même navire, Haïti, en février 1920, quand il est démobilisé. Sa mère, le croyant mort, s'évanouit à sa vue. Après les retrouvailles, il s'installe à Petit-Bourg, reprend son travail à l'usine, fonde une famille. Il aura 5 enfants. De la reconnaissance de la patrie envers le vaillant soldat, il n'en sera jamais question. Car Valentin a perdu son livret militaire et ne peut faire valoir ses droits d'ancien combattant. Il n'est plus question de citoyenneté française. Même les anciens combattants avec des blessures de guerre avérées, comme son frère, amputé d'une jambe, n'y accèdent pas. Pas d'emploi réservé non plus, comme pour les métropolitains ou les veuves de guerre. Mais Valentin n'est pas revanchard. Il est heureux d'être rentré sain et sauf. Il ne parle pas de la guerre, des souffrances, de la mort de ses compagnons de régiment. Il n'est jamais officiellement invité aux commémorations de la Grande Guerre, mais il y assiste chaque année. Il y a sa place, quoi qu'en pense l'administration. Il supporte les humiliations et contraintes infligées aux indigènes et se réjouit quand enfin, en 1946, le statut de sujet français qui leur est réservé est supprimé. Il peut enfin se déplacer librement, ne craint plus d'être arrêté pour la moindre peccadille et surtout obtient le droit de vote. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ces petits-enfants sont troublés par le sort qui a été réservé à leur grand-père. Ils savent que les pensions des anciens combattants indigènes ne sont pas les mêmes que pour les citoyens français qui combattaient à leur côté. Ils participent aux revendications de réparation pour ces personnes qui ont servi la France. À la fin des années 1990, Valentin a bientôt 100 ans. Il est encore vaillant, mais ne peut plus vivre tout seul. Il part dans une maison de retraite. Sa petite fille l'aide à organiser son départ, range la maison, fouille un peu dans les souvenirs, les photos, les papiers. Au fond d'une malle, elle découvre une plaque de militaire avec un numéro de matricule. Une enquête administrative est lancée. Cela prend du temps. L'administration ne cède pas si facilement. Il faudra encore attendre de nombreux mois avant de confirmer qu'il s'agit bien de la plaque de Valentin et que son statut d'ancien combattant soit enfin reconnu. Le 14 février 2001, Valentin a 103 ans. Sa carte militaire et la croix du combattant lui sont remises au cours d'une cérémonie officielle dans sa maison de retraite. En septembre 2002, il est décoré de la Légion d'honneur. Il meurt en décembre 2002 à l'âge de 104 ans. Il est le plus vieux poilu de Martinique. Peut-être a-t-il attendu tout ce temps la reconnaissance de la France, qui, dans sa grande générosité, lui a remis un chèque de 300 euros, et qu'il n'a pas pu partir qu'une fois que ce fut fait. Il s'appelait Valentin Lindor. Texte de Bernadette Keva, lu par Anaïck Frappard.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nous sommes le 15 février 1931 au stade de Colombes et nous allons assister au match de foot France-Tchécoslovaquie. Face à la tribune, toi et tes coéquipiers, au garde à vous, reprennent la Marseillaise à plein poumon. Tu as toujours été sensible aux airs martiaux. Ton œil est humide et tu sembles retenir tes larmes. C'est ta première sélection en équipe de France, la plus importante. Tu rentres dans le cercle restreint des joueurs internationaux. Tu vas réaliser le vœu de millions d'enfants de par le monde, jouer pour leur équipe nationale. Toi, ton rêve, il est devenu réalité. Il est en bleu, comme le maillot frappé du coq. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Ta concentration est extrême, le trac t'envahit. Et la nuit précédente, tu as peu dormi, alternant les moments euphoriques où tu te vois marquer le but vainqueur, acclamé par le public, félicité par tes partenaires, avec des instants plus sombres, où tu cauchemardes à l'idée de faire une bourde qui met en grande difficulté l'équipe. Quelques notes de l'hymne national résonnent encore, et tout ce chemin parcouru. À 16 ans, tu interromps tes études brillamment commencées pour ta passion, le foot. Jusqu'à aujourd'hui, où tu vas être le premier joueur à la peau noire à défendre le maillot de l'équipe de France. Cette sélection d'un joueur de couleur n'a suscité aucune réaction dans les gazettes. Tu n'es que une 11e partie du 11 français et tu apprécies cette indifférence. C'est bien mieux ainsi. Tu n'as pas conscience du déferlement médiatique que tu aurais engendré de nos jours. Débats, polémiques, louanges, critiques. Main reportage aurait disséqué ton passé, ta famille, tes relations, ton caractère, etc. Le public aurait su que tu venais d'une famille très aisée, fréquentant les beaux quartiers parisiens. Ton père, député au Parlement français, deviendra le premier homme d'origine africaine à entrer dans un gouvernement de la République française. Décidément. Le coup de sifflet de l'arbitre va retentir. La rencontre va débuter. Tu te places rapidement sur le côté droit. Tu es grand, 1m87, très grand pour ta génération. Bien campé sur tes jambes, tu as un beau gabarit sans être un colosse. Vite, on te surnommera l'araignée. Ça y est, c'est parti. En face, dès les premiers échanges, on sent l'équipe tchécoslovaque très déterminée. Les contacts sont rugueux. À ce niveau, il n'existe pas de match amical. Toi, maintenant, tu es à la course avec le trapu mais vif et lié adverse. Votre duel commence. Tu vas toucher ton premier ballon. Ah, le premier ballon, si important, si déterminant pour le reste de la partie. Les sportifs de haut niveau sont souvent superstitieux. Allez, pas de détails, un grand coup de botte devant. Toi, le jeune homme calme dans la vie, deviens un lion sur le terrain. Défenseur intransigeant, tu n'hésites pas à te muer en véloce attaquant. L'engagement est total et les joueurs d'Europe centrale font mieux que se défendre et ta déception est grande quand arrive la fin du match. France 1, Tchécoslovaquie 2. Cette déception masque sur le moment ta joie d'avoir revêtu la tunique bleue. Dans le vestiaire, à l'instar de tes équipiers, la tête est basse, les gestes lourds, le silence interrompu par quelques jurons de dépit, la peine accentuée par les cris de victoire des visiteurs. Ce ne sont pas quelques tapes amicales qui vont te consoler. Tu scrutes maintenant le regard du sélectionneur. Tu y cherches une quelconque approbation de ta performance. Seras-tu de nouveau retenu dans le groupe? La réponse est oui. Capé 18 fois en équipe de France, tu ne le sais pas encore, mais de nombreux joueurs de couleur, on dit maintenant plus facilement les Blacks, parmi les plus fameux, suivront tes pas. Tu auras la chance de voir ton équipe de cœur triompher au Mondial 98, l'équipe Black Blanc Beurre. Tu rejoindras une autre planète foot, constellée d'étoiles, quelques jours avant tes 92 ans, dans l'anonymat. Raoul Diane, 1910-2002, à jamais le premier.
Portrait chinois ou plutôt franco-algérien. Où êtes-vous né?
Je suis né à Sigue, à Oran. J'ai eu une enfance chaude, ocre, poussiéreuse, turbulente.
Votre meilleur souvenir?
L'odeur de mon grand-père maternel. Il sentait la terre et le ciel. L'odeur du sable, pour moi, c'est l'odeur de la mémoire.
Et quand êtes-vous arrivé en France?
J'avais 10 ans quand j'ai posé les petons dans la vallée de Valognes pour rejoindre mon père. Le choc thermique, quoi. Les Vosges, c'était mon nouveau petit pays. Eh ouais, j'étais devenue un bonbon des Vosges, à la fois doux et brut de goût. Mais chaque été, avec toute ma famille, on retournait au pays. Et si je suis beurre, minot, je disais beurre, Charente-Poitou, et je me bidonnais. Et puis après, les Minguettes à Lyon, et depuis pas mal de temps, Belleville. Je suis maintenant un Africain parisien.
Comment avez-vous formé votre groupe?
J'ai arrêté l'école assez vite. J'ai cherché des petits boulots, j'ai vendu des encyclopédies en faisant du porte-à-porte. Avec ma trombine, peu de portes s'ouvraient. J'ai trouvé un boulot chez Majorette, drôle de nom pour une usine. Plutôt une image de village français si loin du bled. Mais c'est là que j'ai rencontré Mohamed et Mokhtar et qu'on a formé notre groupe. Un mélange épicé et détonnant, punk, rock, raï, shabby, reggae et électro.
Votre premier émoi musical?
Oh là là, j'avais 9 ans. C'était Cholet Cholet, un film indien qui durait 3 heures. L'acteur s'appelait Zemzem et le plus rigolo, c'est mon surnom depuis. Un mélange de western et de Bollywood. Eh ouais, j'aimais déjà les mélanges de culture, de musique, les métissages. Faut bien bousculer les codes et franchir les frontières, de Memphis en Égypte à Memphis dans le Tennessee. L'Europe, c'est aussi le début de l'Afrique, pas vrai? Je te l'ai dit, je suis africain de Paris à Bamako.
Pourquoi chantez-vous?
Pour ne pas devenir fou ou aller au bout de la folie. Pour éviter les cachets, me cacher. Pour me sauver.
Et avez-vous fait des excès?
On ne fait jamais assez d'excès. La vie, c'est les excès, mais des excès flamboyants. Il faut se réchauffer au bras zéro de nos folies. Pas mal, ça, non? Les livres où il y a le plus d'excès, c'est les livres de religion, la Bible, la Torah, le Coran. Et là, il y a des excès sur les hommes. Ça peut semer de bonnes comme de très très mauvaises graines. Moi, je suis un laïc musulman, je suis pour le Coran alternatif. Attention à ne pas se prendre les doigts dans la prise. Vaut mieux boire un verre de vin que de lire un livre de religion.
Même sur scène ?
Ah, j'en ai marre qu'on pense que je suis bourrée sur scène. Si je vacille et que je titube, c'est parce que j'ai une maladie génétique rare. Le syndrome d'Arnold Chiari. No comment.
Votre sport préféré ?
Le foot, le hand, le collectif, quoi. La marche. Tu te rappelles la marche de Marseille à Paris en 83 pour l'égalité et contre le racisme ? Au début, on était une trentaine. Et puis des tas de gens nous ont rejoints au fur et à mesure. Une grande marche de solidarité. On y croyait.
Avez-vous un modèle ?
Sincèrement, surtout pas les prophètes, mais des maîtres littéraires, Jean Genet pour le Chant d'amour ou Pasolini, l'Évangile selon Matthieu. Ils sont tous les deux comme moi un peu désorientés. Je serais la moitié des deux, je serais une vraie rockstar.
Qu'est-ce qui vous fait péter les plombs ?
Ah, quand on insiste sur le fait que ce fumier de Mohamed Merad est franco-algérien, on n'insiste pas sur le fait que Zinedine est franco-algérien. Quand tu marques des buts, tu es français, tu deviens même albinos, hein. Mais dès qu'il y a un salaud, alors là, voilà, voilà que ça recommence, ça redevient un bico.
Avez-vous votre carte de séjour ?
Ouais, je l'ai. On a choisi ce nom en référence au roi de France et pour la particule. On est les barons de séjour et un jour on aura des châteaux. Juste histoire de chanter notre noblesse de déraciner, de Roro. C'est pour ça aussi que j'ai repris hier Raya, l'hymne des immigrés algériens. C'est devenu une chanson qui cartonne partout dans le monde.
Et s'il y avait la guerre entre la France et l'Algérie, vous combattriez dans quel pays ?
Je serais réformée. Ce serait comme choisir entre mon père et ma mère. Écoute-moi bien, camarade. Je suis un combattant de la paix. Français de tous les jours, algérien pour toujours. Mais j'aime chahuter ma patrie et ma matrie. Quand j'ai chanté « Douce France » façon Chabi avec ma voix rocailleuse et ma tronche de métèque, j'ai eu les foudres des deux côtés. Scandale et trahison dans le même panier. C'était un peu le même topo que j'ai deux amours. J'ai fait ma Joséphine subversive et tendre à la fois. On est allé distribuer l'album à tous les députés de l'Assemblée nationale. On a créé quelques turbulences.
Que souhaitez-vous faire avant de mourir ?
Bon sang, je voudrais absolument chanter la plus belle chanson sur le temps qui passe. Faire mieux que Léo Ferré, tu vois.
Et que souhaiteriez-vous qu'un dieu vous dise s'il existe à votre mort ?
1, 2, 3, soleil. Bienvenue dans ta casbah, Rachida, rocker sans frontières.
Rachida est née en septembre 1958 sous les figuiers d'Oran et est mort au Lila à Saint-Denis en 2018, une semaine avant d'avoir 60 ans.
Les textes que vous venez d'écouter, c'est-à-dire Raoul Diane, écrit par Philippe Coat, suivi de Rachida, écrit par Muriel Becquet, ont été lus par eux-mêmes, accompagnés de Luc Haroudel.
FM 91.2, les ateliers des Valouna.
La Liégeoise, un vendredi ordinaire, le corps marqué par l'heure de tennis de la veille, l'emprise des habitudes, le premier café du matin, le détour dans la nuit pour récupérer Ouest France dans la boîte aux lettres, et toujours les drones en Ukraine, les décombres à Gaza, le naufrage d'un bateau au large des côtes africaines, les victoires d'une jeune chanteuse nazarienne, le bulletin météo. Au programme de la journée, l'impasse sur l'entretien du jardin, les allers-retours pour une intervention sur le scénic, l'autre détour pour remplir le réfrigérateur, le rendez-vous avec Pablo aux ateliers du Bigeon à côté de l'éléphant. Un regard chagrin derrière la baie vitrée, il pleut, les coups de vent font frissonner la cime des arbres dénudés. Le balai des pies en plein chantier me distrait de la morosité ambiante, les jonquilles égayent le territoire. Il serait temps d'agir, de faire. Il serait bien que j'intervienne au niveau de la VMC, le moteur donne des signes de défaillance, et aussi que j'aille à la déchetterie pour vider les bacs de déchets verts abondamment remplis. Je dois aussi consulter ma messagerie électronique et classer les albums CD. Je sais, l'avenir appartient à ceux qui, alors... Un dernier regard sur le téléphone portable, bien que je sache qu'on ne me demande plus rien. Là, en quelques mots succincts, le décès d'un homme, Robert Badinter. Plus que l'homme intègre, une référence, un guide moral, Clairvaux, Hugo, le procès Henri, 81, le ministre, la peine de mort, l'homosexualité, j'ai honte, me reviennent dans le désordre. Impossible aussi d'occulter Elisabeth, toujours associée à ses actions. Quelques heures plus tard, je marche dans la ville, ébouriffé par la ténacité du vent, cinglé par la pluie. Un temps, dans une rame de tramway parmi d'autres gens, de nombreux regards fixés sur un écran, j'observe un monde en marche, au black blanc beurre, 98, j'ajoute des Afghans et des Kurdes, entre autres. Quoi qu'il en soit, les yeux étonnés d'un gamin dans sa poussette, la dame concentrée sur sa lecture, le couple engagé dans un discours que je n'entends pas m'éloigne de mon apathie. Les parents de M. Badinter auraient pu se joindre à la plupart des voyageurs, comme eux, Amine, Nessim, Fatima, Sidney, Pinard, sont nés au-delà de l'Hexagone et que je sache ont été accrochés aux valeurs de la République. Un homme au teint mat se lève pour me proposer sa place. Aux abords du pont Anne de Bretagne, bousculé par les rafales, je ne peux occulter le mémorial de l'abolition de l'esclavage. La Loire sans le Belém déborde et envahit les jardins alentour. Personne sous les paniers de basket devant les ateliers. Les intempéries font fuir les accros du ballon rond. Je dois contourner les flaques d'eau, le hall des chantiers. Enfin, à l'abri, dans un havre paisible mais déserté de tout, pas un bruit, pas un mouvement, peut-être le son ténu d'un courant d'air ou le dépôt feutré de grains de poussière mêlés aux échos d'un dernier discours. Pas à pas, l'accès aux étages, la sensation d'être une ombre. Je n'ose pas troubler le silence. Au deuxième palier, Pablo Picasso m'accueille. Juste à côté, par la fenêtre, la vision d'un héron de ferraille se brouille de gouttes d'eau. L'escalier devant moi reste vide. J'avais imaginé un dialogue avec M. Picasso, j'avais emporté de quoi glorifier son parcours, mais nous nous complaisons dans le rôle du personnage muet à l'écoute du monde. Au deuxième étage, une salle en désordre. Là, un livre de Boris Vian traîne sur une table. Des chaises abandonnées dans les allées, au mur des facéties d'un homme de cirque, au sol, la trace d'un reste de café. Au bout d'un autre temps, entre deux chuintements de vent, les sons panachés de refrains que je crois reconnaître, j'ai deux amours. Ami, entends-tu? Alla mattina, bella ciao. Et d'autres dont la langue m'est inconnue. Un monde s'anime, cela vient des escaliers, des couloirs, des affiches, un aube, un autre, une femme, puis un groupe. Des portraits autour de moi entrent dans la danse. Un monde jubilatoire de carnaval, des costumes sortis des livres d'histoire ou des albums de photos accumulés dans le fond d'une armoire. Une foule bigarrée avec des drapeaux criblés par la mitraille et des banderoles élimées par les révoltes. Et puis les mots, les phrases, les formules extraites de discours. Le murmure s'efface face à la clameur. Les phrases affichées prennent de plus en plus d'ampleur et se mettent un slogan venu d'ailleurs, le droit des femmes, les corps objets, la conscience d'une différence, les réelles aptitudes des individus, le devenir plus égalitaire sont écrits sur les murs, songe, réalité, je ne sais pas, je ne sais plus, comme si je retrouvais des personnages du tramway dans cette galerie de portraits. Un clown noir amuse le gamin de la poussette et Isadora Duncan entraîne l'homme aimable dans une danse de feu. Un groupe de filles vêtues comme des Amazones m'entraînent plus loin vers le grand escalier. Là, tout s'évanouit, se délite. Je retrouve le silence. Le portrait d'une dame s'impose. Un visage au trait harmonieux, le cheveu en bataille agrémenté d'un ruban de soie, les yeux noirs ouverts sur le monde, le costume des dames de salon du siècle des Lumières. Une sensation d'inquiétude se dégage de l'ensemble. Je ne sais rien de Marie-Joseph Théroigne de Méricourt. Son portrait ravive le dessin d'Olympe de Gouges, guillotiné en 93. J'entends le bruit sec d'une masse de ferraille sur un billot de bois. Je revis le discours de Victor Hugo. J'y associe les paroles de Monsieur Badinter. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. J'étais venu pour Pablo Picasso. Je repars avec Marie-Joseph la Liégeoise. Je ne sais pas que Baudelaire l'avait glorifiée. Je vais pouvoir combler quelques lacunes dans mon livre d'histoire. Il pleut sur Nantes quand je repasse sur la Loire. Texte et lecture, Michel Frappard.
FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.